Pixel présente. Games and Pixel.
Salut tout le monde et bienvenue sur Games and Pixel, l'émission sur la création ludique vue par les professionnels,
je crois.
En tout cas,
ce qu'il en reste.
Voilà, c'est un peu ça. Je suis Thomas Carnissière, je suis en compagnie de Pierre Armand.
Salut.
Et de Hubert Grossin.
Salut.
Et ensemble, nous sommes partis sur la spéciale Festival International du Jeu de Cannes, édition 2020. FIGE pour les intimes, n'est-ce pas ?
C'est plus simple, oui.
C'est beaucoup plus simple, ouais. Et du coup, on a commencé hier une petite série là, qui va durer jusqu'à demain, un petit triptyque d'interviews longues sur des auteurs, éditeurs qui vont aborder différentes thématiques. Hier, on avait le très rapide Cédric Lefebvre de Ludonote qui est parti d'un appel téléphonique et très vite à un prototype. Pendant qu'il bossait sur un truc un peu
deux
plus...
Deux semaines.
Oui, c'est ça, deux semaines, sérieux. En deux semaines, il avait un truc comme ça. Bon, après, il nous parlait aussi d'un prototype qui avait duré trois ans, qui lui était beaucoup, beaucoup plus difficile à concevoir. Aujourd'hui, on va avoir un profil semblable, mais qui va être un peu particulier aussi, puisque c'est quelqu'un qui, à la base, ne faisait pas un boulot de game designer et qui s'y est mis. Qui vient de Perpignan. On va parler donc de Mathieu Béger, qui a sorti là son deuxième jeu, et pour le coup avec un joli succès. Son stand, il était rempli tout le temps, en fait. C'était assez impressionnant. Je sais pas si tu as vu, Hubert.
Je suis passé devant, mais je t'avoue que j'ai pas vu en détail le jeu, moi.
Ouais, pour être passé plusieurs fois devant, c'est vrai qu'à chaque fois il y avait du monde. En plus, la déco était assez punchy.
Par contre,
donc,
oui, j'ai vu le costume.
Oui, on a tous vu. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis passé, ça désemplissait pas. Il y avait beaucoup de familles avec les parents et tout. Et c'est cool de voir qu'il y avait du succès pendant tout le week-end. Ouais.
Dès qu'il y a un jeu qui parle de bouffe, de toute façon.
Ah oui. Ouais. Mais du coup, ouais, on aura l'occasion d'en apprendre un peu plus. Avant ça, on vous propose l'agenda de l'association Ensuite Pixel.
Donc pour l'agenda de Sud Pixel, ça commence vendredi avec la soirée Proto Night chez les Castors Le Barrageux, qui est en centre-ville de Montpellier à 19h. Pendant cette soirée, vous pourrez retrouver des auteurs qui viendront présenter les jeux, leurs prototypes de jeux qu'ils vont présenter pendant tout le week-end. Donc c'est l'occasion pour vous de venir les rencontrer, de tester un peu les jeux en avant-première. Et ensuite, vous pourrez retrouver Sud Pixel pendant tout le week-end sur la partie proto, car nous, justement, cette année, nous la co-organisons. Nous avons fait une petite sélection d'une vingtaine de jeux que vous pourrez retrouver pendant tout le week-end et que vous pourrez venir tester en famille.
Au quorum.
Au quorum. Et c'est à partir de 10h le samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et venir tester les jeux. Pour la suite des événements, vous pouvez retrouver sur agenda.sudpixel.fr. Nous mettons au fur et à mesure les événements et vous pourrez ensuite vous inscrire via Facebook et Eventbrite.
Ah, c'est bien fait, Pierre. On dirait que tu l'as fait une centaine de fois déjà.
Ah oui, bah au moins 106 fois, non ?
Oui, ça commence un petit peu, oui. On a passé la centième il y a un petit moment, quelques semaines.
Bah, 6 émissions, si mes calculs sont bons.
Oui, exactement.
Ou si le chiffre de Pierre est bon, en tout cas.
Exactement. Mais en tout cas, on s'excuse, encore une fois.
Pour la centième, tu veux dire ?
Oui, elle arrive bientôt. Quand vous écouterez ça, elle sera peut-être disponible en podcast sur radioclapas.fr. En tout cas... nous sommes partis donc sur cet échange avec Mathieu Béger sur à la fois Custo Fury, évidemment sa maison d'édition, puisqu'en fait il en a créé une justement à ce propos. Je vois Hubert qui me fait de grands signes. Oui, l'épisode 100 est disponible sur radioclapas.fr. Voilà, donc ça fait partie un petit peu des choses. Encore une fois, on est désolé. Alors, du coup, Custo Fury, c'est un jeu qui se joue de 2 à 9 joueurs et qui dure 15 minutes. Et du coup, c'est un jeu qui a gagné rien moins que le prix 2019 Octogone tout public.
Ok.
C'est pas mal, hein,
ah
déjà.
Oui, c'est gentil.
C'est déjà, ça montre que le public a eu un grand intérêt sur ce jeu-là. Et en plus, ils ont même prévu plusieurs niveaux en fait, de règles pour l'adapter vraiment tout public avec les jeunes. Jusqu'aux experts un petit peu avides de challenge.
Alors je vais peut-être passer pour un newbie, mais c'est quoi le prix Octogone ?
Alors, Octogone, en fait, c'est une convention du jeu et de l'imaginaire. C'est comme ça que ça se définit. C'est un des festivals du jeu de France qui se déroule aux alentours d'octobre à Lyon.
Ok, je te remercie pour ces précisions.
Je t'en prie. Bah, du coup, Mathieu Bégé, il a un parcours assez particulier avec sa maison d'édition Ludic Concept, qui est basée à Perpignan. C'est qu'en fait, il était archéologue de métier.
Nice. Ça me plaît, ça.
Ça, c'est génial. D'où son premier jeu.
Ah bah oui, ouais, du coup, c'était quoi? C'était Archéo, un truc.
Alors, c'était Opération Archéo, qui a été son premier jeu et qui, au final, a rencontré un joli succès, finalement. Mais pour ça, je pense qu'il en parle bien mieux que moi dans son interview. Alors, je suis donc au Festival International du Jeu à Cannes et j'ai rencontré quelqu'un qui est habillé en cuistot. Voilà, donc tu es Mathieu Bégé.
Oui, tout à fait. Enchanté.
Enchanté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, puisque tu es exposant, en fait, sur ce salon. Tu présentes un jeu qui, du coup, a un rapport direct avec la cuisine, puisque c'est Cuisto Fury.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi et de ce jeu énigmatique que tu présentes?
Oui, donc effectivement, je m'appelle Mathieu Bégé. Je suis le créateur des jeux Opération Archéo et Cuisto Fury. Et je suis également éditeur de jeux, puisque je suis le fondateur de la maison d'édition Ludic Concept, qui s'est créée il y a 2 ans et demi, et donc qui là sort son deuxième jeu Cuisto Fury, qui est sorti en octobre et qu'on est en train justement de lancer lors du Festival des Jeux de Cannes.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter Cuisto Fury ?
Oui, bien sûr. Donc Cuisto Fury, c'est un jeu de compétition en équipe et de rapidité. Le principe, c'est que c'est 2 ou 3 équipes de cuistots qui sont persuadées d'être chacune les meilleures du monde. Et comme elles ne sont pas d'accord entre elles, bah, elles vont faire un duel de cuisine pour régler ça une bonne fois pour toutes. Et donc le principe du jeu, c'est un jeu de rapidité. Il y a à la fois un aspect compétitif, puisqu'on va se challenger contre l'équipe d'en face, mais aussi un aspect coopératif, puisqu'au sein de l'équipe, on va devoir se coordonner et collaborer pour être meilleur que l'équipe d'en face. Donc au niveau du matériel de jeu, pour permettre un petit peu à vos auditeurs de visualiser, on a un plateau central qui correspond au feu de cuisson, avec 3 feux de cuisson qui sont en fait 3 emplacements de cartes à jouer de différentes couleurs. Les joueurs ont à leur disposition des recettes de cuisine qui vont en fait indiquer un certain modèle de recette à suivre. Et ils ont également à leur disposition des cartes d'ingrédients et d'ustensiles. Et donc leur but, ça va être de choisir une recette de cuisine pour ensuite réaliser leur recette en empilant les ingrédients et les ustensiles sur le plateau. Évidemment, il va y avoir, comme tout jeu de rapidité, un sablier. Et il y a une mécanique de jeu très particulière, d'ailleurs, que j'ai retrouvée dans aucun autre jeu dans Cuisto Fury, c'est-à-dire que les joueurs vont se partager le sablier et à chaque fois qu'ils vont finir leur recette, ils vont retourner le sablier. Ce qui fait que plus ils vont être rapides, moins ils vont laisser de temps à l'autre équipe pour réaliser leur propre recette. Donc okay. L'idée, c'est toujours de trouver un compromis entre des recettes longues qui vont donc rapporter plus de points. Et donc, on va ensuite aller servir les clients qui ont chacun des exigences particulières ou des recettes beaucoup plus courtes, du coup, qui vont nous permettre de mettre la pression à l'autre brigade en termes de temps. Mais forcément, on marquera moins de points. Donc, c'est toujours des compromis à réaliser. Il y a plusieurs stratégies possibles.
Et alors, du coup, je vois qu'il y a une direction artistique assez marquée. Est-ce que tu peux nous parler des gens qui sont, c'est une question forcément un peu orientée, tu t'en doutes, est-ce que tu peux nous parler des gens qui sont derrière Cuisto Fury, en termes de design et en termes artistiques?
Oui, bien sûr. Alors sur le plan artistique, moi j'avais défini déjà des cibles en tant qu'éditeur, parce que c'est vrai que je ne suis pas directeur artistique, mais j'assure une forme de direction dans le sens où je donne quand même des orientations aux créateurs, aux artistes qui collaborent avec moi. Et ensuite, il s'avère que ma maison d'édition est installée dans une pépinière d'entreprise qui est jumelée, pour faire simple, avec l'IDEM. L'IDEM, c'est une école d'art graphique qui est assez connue dans ce milieu-là et qui est installée près de Perpignan, au Soleil, là où en fait je suis installé aussi. Et du coup, l'illustrateur et le graphiste avec lesquels j'ai travaillé sur ce jeu, pour l'un, il est enseignant à l'IDEM, et pour l'autre, c'est un ancien enseignant à l'IDEM, et je les ai connus par ce biais-là.
Okay.
Donc Christophe Palma, qui est à l'origine un auteur de BD, qui est donc professeur de dessin dans cette école supérieure, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé sur Opération Archéo. Okay. Et comme j'étais content de son travail, ben, on a continué à travailler ensemble sur le deuxième. Et donc Samuel Loire, c'est quelqu'un qui m'a été recommandé par Christophe Palma. Et donc on a travaillé ensemble, et de mon point de vue avec succès, parce que je suis plutôt content du résultat. Et effectivement, il y avait des enjeux, un petit peu comme sur le premier, il y avait des enjeux assez particuliers au niveau création artistique, parce qu'il nous fallait quelque chose. En fait, la problématique, mais c'est aussi une force de LudiConcept, c'est qu'on crée des jeux qui sont modulaires. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des publics différents. Par exemple, Custo Fury, c'est un jeu qui peut se jouer très bien avec des enfants, c'est un jeu familial, mais en même temps, c'est un jeu auquel on voulait donner une dimension aussi de joueurs plus expérimentés, de fans de jeux, d'adultes.
Okay.
Et du coup, il fallait trouver un compromis en termes de direction artistique, en termes de création, de charte graphique, pour avoir un visuel déjà très mouvementé. Il fallait que ce soit très impactant en termes de mouvement, c'est un jeu très frénétique, de rapidité. On voulait que le visuel retranscrive ça. Et il fallait également avoir un rendu qui puisse à la fois plaire à des enfants, mais qui ne soit en même temps pas trop enfantin, pour pouvoir convenir justement à ce public d'adultes qui cherche des jeux d'ambiance. Et donc on a travaillé dans cette direction-là. Il y a eu tout un travail d'abord de création de visuels, plutôt d'illustration. Donc c'est Christophe qui a travaillé dans un premier temps. Et ensuite, on a commencé à travailler en ping-pong entre Christophe et Samuel, justement pour créer tout le maquettage graphique qui allait habiller les illustrations.
Ok.
Donc c'est vraiment un travail de collaboration entre deux créateurs, avec moi du coup qui avait plus un rôle de direction et qui leur indiquait des orientations et ensuite sur lesquelles eux ils pouvaient exprimer leur sensibilité.
D'accord. Alors du coup tu es à la fois auteur de jeu, à la fois éditeur. Comment est-ce que tu arrives justement à gérer cette partie à la fois éditeur, où justement il y a la partie un petit peu direction, etc., et la partie game designer, où par contre tu vas potentiellement vraiment travailler sur les mécaniques.
Alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement le fait d'être à la fois créateur et éditeur pose un certain nombre de problématiques. La première problématique en tant que créateur, c'est que créer un jeu, ça prend du temps. Ça nécessite beaucoup de tests, ça nécessite beaucoup de versions différentes de prototypes. Et donc ce temps-là, c'est un temps pendant lequel je ne suis pas payé. Et donc ensuite, en tant que créateur, si je passe 6 mois à développer un jeu, eh bien, il faut qu'en tant qu'éditeur, je sois en capacité de financer ce temps de création et d'avoir un retour sur investissement suffisant pour pouvoir me payer mon temps de travail. Parce que bien sûr, j'ai des factures à la fin du mois, il faut bien que je paye mon loyer, que je paye ma nourriture. Et le challenge que j'ai choisi, c'était de dire, je suis créateur de jeux, je veux pouvoir vivre de la création de jeux, c'est ça qui m'intéresse, je pense que c'est ça mon apport le plus important à la société. Et pour pouvoir continuer à être créateur de jeux, il faut que je vive de la création de jeux. Et donc pour pouvoir vivre de la création de jeux, il faut que je sois éditeur.
D'accord.
Et en étant éditeur, ce que j'espère, c'est que mes jeux auront suffisamment de succès justement pour permettre de financer la création et de pouvoir continuer à sortir des nouvelles choses.
D'accord. Et justement, sur cette partie édition, puisqu'en fait, c'est aussi l'opportunité, puisqu'on est au Festival international du jeu avec toutes les problématiques. Voilà, il y a l'As d'Or, les As d'Or même. Là, je vois deux jeux qui sont très différent en termes de direction artistique et même en termes de thématique, puisqu'il y a Custo Fury, mais il y a aussi Opération Archéo. Qu'est-ce qui a motivé en fait ces thématiques-là que tu abordes au travers de ces deux jeux?
Moi, j'ai découvert paradoxalement le jeu de société un petit peu sur le tard. C'est vrai que souvent, la plupart des éditeurs ou des joueurs, ils nous disent « Moi, j'ai découvert le jeu, c'était en 1983 avec la première boîte de tel jeu ». Moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est vrai que, bon, jeune, je jouais comme tous les enfants, mais il n'y avait pas une culture du jeu dans ma famille. Et du coup, moi, ce n'était pas un milieu que je connaissais.
D'accord.
Donc, ce n'était pas une question d'intérêt, c'est juste que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert... je suis d'abord entré dans le monde du jeu par le jeu de rôle. Et puisque j'ai découvert le jeu de rôle, pareil, tardivement, en fait, j'étais à l'université. Ça devait être en 2008-2009. Et bon, j'ai découvert le jeu de rôle, ça a été une révélation. J'ai adoré cet aspect coopératif du jeu de rôle, parce que je suis très amateur de coopération, je n'aime pas le conflit en tant qu'individu, donc c'est vrai que je recherche toujours le partage, la coopération avec les gens. Et donc j'ai d'abord plongé à corps perdu dans le jeu de rôle, et c'est vrai que dès que j'ai découvert ça, j'ai eu envie de créer des jeux. C'est vrai que l'aspect créatif, ma mère est artiste, elle était prof enseignante d'art plastique et artiste, donc ce côté créatif j'ai pas de talent pour les arts graphiques et du coup ce côté créatif je l'ai mis dans l'écriture et dans la création de jeux.
D'accord.
D'abord de jeux de rôle et puis longtemps j'ai pensé que le jeu de société c'était pas pour moi parce que n'aimant pas trop la compétition, ben forcément quand on me présentait des jeux très compétitifs et pas forcément des jeux très modernes, ben du coup ça me donnait pas envie de... Je pensais pas qu'il existait des jeux qui puissent me convenir, des jeux de société qui puissent me convenir. Et quand j'ai découvert le monde des jeux de société modernes, que j'ai découvert toute la richesse que ça pouvait représenter, ben j'ai commencé à m'y intéresser. Et j'étais archéologue de métier, donc j'étais pas du tout dans le professionnel dans le monde du jeu. Et puis, en tant qu'archéologue de métier, j'avais envie de partager. C'est vrai que j'ai aussi fait des formations. Donc j'étais sur le terrain, hein. J'étais vraiment sur les sites archéologiques à faire les fouilles.
D'accord.
Et quand j'ai découvert, j'ai aussi découvert tout le monde de l'animation en archéologie, de la médiation. Et j'ai eu envie d'être aussi dans cet aspect de partage, d'éducation à l'archéologie. Mmh. Et à un moment donné, j'ai perdu mon emploi en archéologie. Mmh. Et je me suis dit, c'est l'occasion de me lancer dans des projets un peu fous. Et je me suis dit, c'est quoi tes passions? C'est transmettre, c'est l'archéologie et c'est le jeu. Et je me suis dit, tu vas faire un jeu éducatif sur l'archéologie. Et donc, tout est parti de là. Et c'est comme ça qu'est né mon premier jeu Opération Archéo. J'étais au chômage, donc j'avais du temps. Et j'ai pu... L'avantage en France, c'est que le chômage, il y a des solutions pour créer son entreprise. On nous accompagne dans la création d'entreprise, notamment financièrement. Mmh. Et donc, je me suis dit, tu vas créer un jeu, tu vas créer une maison d'édition et tu vas l'éditer toi-même.
OK.
Il y avait un enjeu avec Opération Archéo, je vais essayer de faire vite parce qu'en général quand j'en parle je m'appesantis un peu trop. Il y avait un enjeu avec Opération Archéo, c'est-à-dire je voulais que ce soit aussi une preuve de concept du fait qu'on peut faire ce qu'on appelle des serious games, donc des jeux éducatifs, qui soient également de véritables jeux. Parce que souvent les serious games sont faits par des pédagogues, il y a un très bon contenu éducatif. C'est toujours intéressant parce que c'est toujours mieux qu'un cours très martial, très professoral sur la thématique choisie. Mais le côté ludique est souvent laissé à l'abandon. Parce qu'on est encore dans cette vision où on considère que le jeu, c'est secondaire.
Oui.
Et que c'est toujours la troisième roue du carrosse qui passe après l'aspect éducatif et l'expertise dans le domaine qu'on cherche à transmettre.
Oui, c'est une problématique du « si on s'amuse, c'est qu'on n'apprend pas ».
Tout à fait.
Ouais.
Et donc, j'ai voulu prouver qu'on pouvait faire un vrai jeu éducatif, mais qui soit en même temps un vrai jeu de société. Et ça a fonctionné puisque c'est un jeu qui est à la fois vendu et en boutique de jeu, qui est joué comme un pur jeu. Et en même temps, qui est également utilisé en médiation du patrimoine.
D'accord.
Tout est parti de là. Et il s'avère que j'ai adoré créer des jeux. Et je me suis dit que j'allais en faire d'autres et que j'allais continuer dans ce milieu-là et que j'avais pas envie qu'Opération Archéo, ce soit juste un coup. Et j'avais envie justement de m'inscrire dans une politique de gamme et dans la continuité de cette création-édition de jeux et dans ce partage-là. Pourquoi Custo Fury? Pourquoi le deuxième? J'avais déjà des objectifs et j'avais envie du coup de prouver avec un deuxième jeu, de me prouver, puis de peut-être de prouver aussi aux autres, que j'étais aussi capable de faire un jeu très très grand public.
Okay.
Et en même temps, que ce jeu très très grand public, c'était pas pour autant qu'il pouvait pas convenir à des fans de jeu. Et voilà, je voulais montrer qu'on pouvait avoir une vraie qualité ludique et en même temps être sur un jeu grand public facile d'accès.
Alors pour continuer cette émission et l'interview avec Mathieu Bégé, je vous propose... de faire une petite pause musicale. C'est Pierre qui cette fois nous a trouvé une petite compo un peu sympa,
ouais.
Dont Pierre a le secret finalement.
Ouais, j'essaye de varier un peu et d'avoir des choses un peu cool quand même. Ouais, donc le morceau vient du groupe Street Sweeper Social Club et c'est le morceau Promenade avec le guitariste Tom Morello. Petit feat sympa.
Ok, c'est parti.
Well, I got a new kind of square dance rap. Don't talk smack, flash my gat. I'm finna spit and hold my dick and heat shit up like a thermostat. Grab your partner by the chaps, give your partner a pimp slap to symbolize the ghetto trap. Step to the right, get three claps. Kids jam-packed in tenement shacks. Ain't shit cooking on the stove but crack. This is the baddest he'll be got, cause Boss is a kleptomaniac. 2x2, promenade. Duck from a B1 bomber raid. Ain't but the plans on summer made. Banks get paid on petro trade. Circulate, dozy dough. How much cash could a OZ grow? Till all of it and all have bears. My skin is black, my star is red. FBI come
coming round the outside. Which one of us finna die tonight? Is we finna fight over crumbs to buy? Or make a whole motherfucking world ignite? Everybody throw them bows right upside your partner's nose. By now you've got bloody clothes, crabs in a barrel, so the story goes. Think of all their savage acts, grab and scratch from average cats, bureaucrats with strings attached, walk in place like a match. Two by two, promenade, duck from a B1 bomber raid. Ain't but the plans Osama made. Banks get paid off pension trade. Circulate, dozy dope. How much cash could a OZ glow? Till all of it and all have bears. My skin is black, my star is red. Level of your toes. These dance moves we usually do are not the ones that we have chose. Grab onto that beat and grind. Try your best to stay alive. We can run, we can't hide. Might as well just stay in the fight. Two by two, promenade. Duck from a B1 bomber raid. Ain't but the plans Osama made. Banks get paid off pension trade. Circulate, dozy dope. How much cash could a OZ grow? Till all of it and all hair bears. My skin is black, my score is red.
J'ai une grande question par rapport au fait que, par rapport donc, à cette logique d'éditeur, est-ce que tu accueilles d'autres auteurs également dans leurs jeux, etc. Est-ce que vraiment cette maison d'édition, elle est là pour justement les concepts que toi tu veux mettre en avant, sur lesquels toi tu veux travailler ?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire dans le sens où actuellement je suis une petite structure, alors j'espère pouvoir grandir justement pour pouvoir mieux gérer certaines choses et me libérer du temps pour faire les aspects éditoriaux et créatifs, et puis pouvoir avoir des gens qui vont mieux gérer que moi l'aspect communication, l'aspect on va dire gestion administrative. Mmh. Puisqu'évidemment on n'est pas excellent dans tout, alors j'essaie d'être bon dans tout, mais il y a quand même mon cœur de métier, ça reste la création et l'édition. Et ensuite oui, il y a toujours un choix à faire, parce que si jamais je prends des auteurs, je choisis des... Voilà, il y a des auteurs qui me font confiance et que moi, j'apprécie ce qu'ils font, et je décide aussi de leur faire confiance et d'éditer leur jeu. Ce temps-là, forcément, c'est un temps que je ne passerai pas à créer mes propres jeux et à éditer mes propres jeux.
Okay.
Donc, il y a toujours un choix à faire, parce que mon temps, évidemment, n'est pas extensible. Ensuite, je ne me l'interdis pas. C'est vrai que je veux continuer à créer des jeux, donc je veux rester dans la possibilité de créer et d'éditer mes propres jeux. Mais je ne m'interdis pas d'éditer les jeux des autres, parce que je pense qu'on gagne toujours à rester ouvert aux possibilités.
Ouais.
Et si j'ai un coup de cœur sur un jeu que je trouve qu'il est formidable, que je trouve qu'il s'inscrit dans ce que j'ai envie de faire passer avec LudiConcept, ça serait vraiment dommage de me priver de quelqu'un qui a eu une excellente idée et de me priver du coup de l'aider à faire exister ce jeu-là, et surtout d'associer sa création à LudiConcept.
Mmh.
Parce que bon, j'oublie pas que ça, c'est, je suis créateur dans mon âme, on va dire, et du coup, pour moi, tout part vraiment du créateur, et celui qui fait le jeu, pour moi, c'est pas l'éditeur, c'est le créateur. Et l'éditeur sert seulement à transcender ce que le créateur a développé. Mmh. Donc, je suis un peu dans cette posture-là où oui, c'est possible que j'édite d'autres jeux que les miens, mais il faut vraiment que j'ai un coup de cœur avec le jeu. Je ne vais pas chercher à... Je ne vais pas avoir une politique d'édition frénétique. Voilà, l'idée, c'est vraiment un à deux jeux par an. Et donc, forcément, bah, le choix, il va être drastique, ne serait-ce que par le fait que j'ai deux jeux à sortir par an maximum.
Et justement, sur Opération Archéo, qui a été ton premier jeu, qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile entre le moment où tu t'es dit « j'aimerais faire ce jeu-là » et le moment où finalement le jeu est en boutique ?
Alors, le moment le plus difficile... Alors, il y a eu une complexité de création, ouais, beaucoup plus importante que pour Cuistot Fury. D'abord parce que c'était mon premier. Mmh. Donc, effectivement, on perd du temps à apprendre et à faire des erreurs de développement qu'on évite ensuite dans les suivants. Ensuite, il y a le fait que c'était un jeu à but éducatif. Et donc, il fallait systématiquement corréler l'ensemble des mécaniques de jeu avec l'ensemble des objectifs pédagogiques du jeu. C'est-à-dire que si je voulais, par exemple, que les joueurs découvrent les différentes périodes, eh ben, il fallait que les périodes servent à quelque chose dans le jeu.
D'accord.
Et que ce soit intéressant pour les joueurs. Donc, j'ai dû trouver un excellent compromis entre les deux. Et donc, ça prend du temps. Parce qu'il y a une règle de game design qui dit que tout ce qui n'est pas dans les mécaniques de jeu n'existe pas. C'est-à-dire que si je mets des petites explications sur l'archéologie et que ça ne sert pas à jouer, les joueurs n'en auront rien à faire. Mmh. Et donc, si je veux qu'ils apprennent des choses, il faut que ça leur serve dans la partie et que ce soit intéressant dans la partie et utile dans la partie. Ça a été la première contrainte, mais pas forcément la plus importante. La plus importante, ça a été déjà trouver une solution de financement, trouver comment sortir le jeu, puisque à l'origine, c'était un projet pédagogique et je pensais qu'en allant au ministère de la Culture, un produit de ce type qui était recherché par les musées, c'est une solution qu'ils n'avaient pas pour faire, ouais, découvrir l'archéologie. Je pensais que j'aurais des subventions et que le jeu pourrait exister de cette manière-là et qu'à la limite, je lâcherais mon jeu et qu'il serait édité par des structures tierces. Mmh. Il s'avère que j'ai trouvé aucune solution de financement parce que le jeu, ça ne rentre pas dans les cases. Il y a des financements pour d'autres choses, mais pas pour les jeux de société. Quand bien même, c'est un but pédagogique. Et ensuite, la dernière difficulté, ça n'a pas été tant la phase éditoriale parce que je suis quelqu'un d'assez organisé. La difficulté, ça a été ensuite de rendre mes jeux accessibles. Parce que beaucoup de boutiques ont de la réticence à passer par des auto-éditeurs ou par des petites maisons d'édition. D'accord. Et du coup, elles attendent des petites maisons d'édition qu'elles choisissent un distributeur. Okay. Ce qui est parfois compliqué. J'avais en plus une cible musée que je touchais directement. Donc voilà, j'ai préféré m'auto-distribuer aussi. Mais clairement, ça a été problématique pour rendre le jeu accessible aux joueurs. Et justement, sur le second, qui est beaucoup plus grand public, j'envisage maintenant de monter en puissance en fait et de passer par un distributeur dont c'est le métier et qui sera forcément bien plus apte que moi à le rendre accessible dans toutes les boutiques.
Bah, en tout cas, merci beaucoup Mathieu d'avoir abordé avec nous à la fois des problématiques d'auteur, à la fois des problématiques justement d'éditeur et aussi sur la distribution. C'est vrai que pour l'instant, on n'en avait jamais parlé dans cette émission et... Je suis bien content qu'on l'ait fait.
Eh ben super.
J'ai une question justement qui vient, c'est après Cuistot Fury, est-ce que tu sais où est-ce que tu te diriges en termes de jeu, en termes d'édition ?
Alors j'ai plusieurs projets dans les cartons. Ce sont des choses qui sont encore passées, avancées pour que je puisse, pour que je souhaite en parler en tout cas publiquement.
Okay.
En tout cas pour donner un exemple, j'ai deux projets dont je pense qu'ils vont être priorisés. Un projet avec une thématique forte dans laquelle du coup on serait toujours dans cet aspect immersif thématique et ça serait une thématique qui serait abordée sous le prisme du cynisme, donc de l'humour noir.
D'accord.
Et on serait plutôt sur un jeu expert et j'aimerais, toujours dans cet esprit de modularité des jeux, en faire un jeu famille plus qui puisse se transformer en jeu expert. Mmh. Et ensuite j'ai un deuxième jeu où on serait sur un jeu basé sur la déduction, où ça serait un jeu coopératif de très petits formats, donc une gamme de prix encore plus abordable que Cuistot Fury, et avec des règles très faciles d'accès où en fait on peut tout de suite jouer.
Bah merci beaucoup Mathieu pour ton temps et surtout pour toutes ces thématiques que tu as bien voulu aborder avec nous.
Bah merci à toi.
Et j'espère à bientôt.
À très bientôt.
Et cette émission touche déjà à sa fin. On espère que, comme l'interview avec Cédric Lefebvre, vous avez apprécié cet échange-là. Qui aborde des thématiques finalement complètement différentes au final. Ça a été assez intéressant pour nous parce que ça a été un petit peu les premières interviews qu'on a lancées. C'est demain qu'on retrouve un nouvel échange, un petit peu entre guillemets, un petit peu long. Et bien du coup, on vous dit à demain pour en découvrir un peu plus.
Tout à fait, à demain.
À demain.